modification en particulier de ces fameux joints S, on va dire c'est le cœur du cœur du système, sans autre forme de procès, surtout sans explication. Et c'est vrai que pendant des années, la question d'ailleurs se pose toujours, c'est un problème ouvert, le problème est de savoir est-ce qu'il y a des fonctions cachées dedans. Si on sait éventuellement rédiger, je veux dire, libeller le problème d'un point de vue scientifique, on ne sait toujours pas le résoudre. Et puis il y a le problème de l'utilisation aux USA. C'est que le DES qui était distribué gratuitement au monde libre sans avoir à payer et tout, il faut savoir qu'il est quand même, comme son successeur l'AES, il est quand même interdit d'emploi aux États-Unis pour le chiffrement des données sensibles. Alors qu'il, par ailleurs, et c'est marqué dans des documents fédéraux officiels, il est bien précisé que ces systèmes de chiffrement ne doivent pas être utilisés pour des données sensibles. Alors c'est vrai que tout ça mis bout à bout, ben, on a quand même, on peut poser des questions. Elle est claire d'un point de vue mathématique, en partie d'un point de vue combinatoire, il y a des possibilités non négligeables, et on est en train de travailler là-dessus, d'y cacher des trappes qui sont pratiquement des stats. Actuellement, on essaie de concevoir un système de chiffrement qui serait de l'extérieur inviolable, mais pour lequel on aurait effectivement un secret qui permettrait d'entrer dedans beaucoup plus facilement. Or, ça, on le reverra tout à l'heure, les systèmes par blocs sont un peu un enfer combinatoire. Ce sont des ensembles sur lesquels qui ont une taille. 2 puissance 128 blocs. Autrement dit, 2 puissance 128, ça fait quelque chose de l'ordre de 10 puissance 40, quelque chose quand même d'énorme. Donc effectivement, ce sont des gros ensembles qu'on ne sait même pas stocker sur un ordinateur pour les étudier. Et ce sont des systèmes encore lents, beaucoup plus lents que les systèmes symétriques à flot. Donc voilà. Mais c'est vrai que le problème de la réutilisation des clés a été réglé. Or justement, ce que je vais vous montrer, c'est que le fait de réutiliser cette clé en utilisant une certaine famille de code, permet au contraire de retrouver des informations sur cette dernière. Alors je vais suivre le plan suivant, quelques définitions et rappels, en particulier j'expliquerai ce que sont ces codes correcteurs d'erreur que j'utilise, à savoir les codes à répétition, ou bien sur les codes les plus basiques qui soient. Et puis je parlerai un peu de chiffrement par bloc et de la cryptanalyse linéaire, qui est actuellement la meilleure entre guillemets, technique de cryptanalyse connue pour ces systèmes, qui est due au japonais Matsui, qui a été raffiné à travers un certain nombre de variantes, mais le cœur est quand même dû à Matsui. Et ensuite, je vous présenterai justement cette fameuse technique PDRC, donc qui utilise des codes à répétition. On verra justement comment on peut lier chiffrement à bloc et code à répétition. Ensuite, je vous décrirai l'attaque, vous verrez qu'elle est d'une complexité tout à fait rudimentaire. Et je fais la liste d'un certain nombre de problèmes ouverts qui n'ont pas encore été résolus. Et puis surtout, je vous présenterai ces résultats expérimentaux à travers 200 cryptanalyses qui ont été faites parce que ces résultats étaient contestés de manière d'ailleurs pas tout à fait on va dire fair play. C'est pour ça qu'on a dû régénérer pendant 3 mois de calcul tous les résultats en générant notamment toutes les valeurs intermédiaires pour justement faire taire les clés. Et je conclue. Alors qu'est-ce qu'un code à répétition? Quand vous transmettez de l'information, imaginez que ça passe à travers un tuyau. Le long du tuyau, il y a des gens qui peuvent taper dessus. Ce qui sort à l'autre bout du tuyau quand vous collez votre oreille n'est pas forcément ce qui a été envoyé à l'entrée. Autrement dit, il y a du bruit. Et ce bruit intervient avec une certaine probabilité. Donc on dit qu'on a un canal binaire symétrique. Binaire, pourquoi? Parce qu'il travaille sur des 0 et des 1. Et symétrique, parce que la probabilité avec la probabilité P, de modifier un 0 ou un 1 est la même. Alors ce que l'on fait quand on veut transmettre de l'information dans un tel canal, on peut utiliser tout simplement ce qu'on appelle un code à répétition. Autrement dit, alors on peut décrire ça comme un code linéaire de longueur n et de dimension 1. C'est la mathématique des choses. Tout ce que l'on sait, c'est qu'un code à répétition, autrement dit, pour transmettre un symbole, je le renvoie à répéter n fois. À ce moment-là, je sais que je peux corriger, et c'est assez intuitif à comprendre, ça démontre facilement, tout simplement, je peux corriger n-1 sur 2 erreurs. Prenons un exemple. Imaginons que je veuille transmettre ce message, donc 0, 1, 1, 0, 0. Tout simplement, chaque bit, donc j'utilise un code 3 répétitions. Autrement dit, chaque bit, alors c'est certes c'est coûteux en termes de bande passante, mais là n'est pas le problème, hein, pour nous c'est pas handicapant, chaque bit est envoyé 3 fois. Donc là j'envoie 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et ainsi de suite. Et imaginons que l'on reçoive ce message. Donc en particulier, vous avez vu que le premier triplet est bruité. Un bit est passé de 0 à 1. Quelle est la règle de décodage? On prend un maximum de vraisemblance. Autrement dit, dans un triplet, et c'est la raison pour laquelle on prend toujours n impair, je compte le nombre maximum de symboles et je retiens celui qui est le plus près. Donc autrement dit, 0, 1, 0, les nombres de 0 étaient supérieurs au nombre de 1, je décide que c'est un 0 qui a été transmis. Ici, 3, 1 ont été reçus, je décide qu'un 1 a été transmis, et ainsi de suite. Donc tout simplement, c'est celui qui est représenté le plus fréquemment qui est supposé avoir été transmis. Donc, après le décodage, on s'aperçoit qu'en fin de compte, j'ai pratiquement tout décodé, sauf un bit. J'ai donc un bit d'erreur résiduelle. Or ça, cette erreur résiduelle, on sait parfaitement la modéliser. J'ai donné l'équation ici, hein, où n représente justement la longueur du code. S est égal justement à n-1 sur 2. Tout simplement, on sait calculer, après transmission et après décodage, le nombre moyen de bits qui, malgré tout, auront été mal décodés. Donc vous voyez, ce sont des codes très très simples. Bon, certes, en termes de bande passante, encore une fois, ce n'est pas optimal. Mais dans ce qui va nous préoccuper, au contraire, c'est assez intéressant. Alors, il faut savoir qu'actuellement, ce sont les meilleurs codes connus pour quand vous avez à traiter des paramètres de bout élevé. Or, en cryptologie, c'est particulièrement intéressant. Parce que si, en théorie des codes, c'est-à-dire quand je veux transmettre des informations en clair à travers un canal, bon, le bruit, dès qu'il est trop élevé, on perd le clair, on est obligé de le renvoyer. En crypto, c'est une problématique différente. On cherche au contraire à bruiter le plus possible, et avec un paramètre P le plus proche de l'ennemi possible, on cherche à bruiter le plus possible le clair pour que précisément l'attaquant, lui, ne puisse pas le retrouver. Hein, vous voyez que la problématique théorie des codes et cryptologie est un peu, sont à l'opposé l'une de l'autre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en crypto, on va justement essayer de travailler avec un bruit qui, lui, est aussi proche que possible de l'ennemi. Quand on va se placer justement avec des codes correcteurs d'erreur utilisés pour faire de l'attaque cryptologique, nous ça ne nous gêne pas parce que tout simplement il suffit d'augmenter le paramètre S, c'est-à-dire augmenter N, en sachant que le nombre de fois où je répète mes bits c'est égal à 2S plus 1, bah, tout simplement je suis capable de dire quand S augmente, même s'il faut que j'augmente beaucoup, ma probabilité d'erreur résiduelle tend vers 0. Donc, dans une optique d'attaque cryptologique, si j'arrive à travailler des codes correcteurs d'erreur à base de codes à répétition, il suffit tout simplement que je considère des codes de plus en plus longs. En finale, j'arriverai à une probabilité d'erreur qui tend vers 0. Ça veut dire que je retrouverai l'information cachée, de mon point de vue de cryptanalyste, l'information cachée qui était extrêmement bruitée. Alors, ce sont aussi des codes parfaits. Bon, ce sont les codes les plus faciles à décoder. Hein, vous avez vu, il suffit de compter, un simple comptage. Et ce sont surtout des codes parfaits, c'est-à-dire que, autrement dit, quand vous recevez un mot, vous pouvez toujours le décoder dans un mot du code. Alors qu'il y a des codes, justement, qui n'ont pas cette propriété. Alors, il faut savoir que l'article le plus complet sur le sujet, qui date, bon, comme de 1988, est celui de Paul Cannon, où il a justement généralisé toute cette classe de codes pour des alphabets quelconques. Nous, on considérera, bien évidemment, un alphabet binaire. Alors, maintenant, parlons un peu du chiffrement par bloc. Donc, un chiffrement par bloc, en ce qui nous concerne, bon, certaines personnes, selon les systèmes par bloc, vont rentrer dans la structure interne du système pour essayer de trouver des faiblesses structurelles. Ce n'est pas du tout notre vision, nous on le voit en vision boîte noire. Autrement dit, j'ai une boîte, tout ce que je sais c'est que dedans, il va rentrer un bloc de m bits de clair. Je fais rentrer également un m bits de crypt, je vais dire n bits de clé secrète, et je produirai un bloc de cryptogramme de m bits. Donc autrement dit, je peux modéliser ça d'un point de vue mathématique comme une fonction booléenne vectorielle qui a un ensemble de m bits. Bon, F2 c'est l'ensemble des éléments à deux éléments 0 et 1. Autrement dit, à des chaînes de m bits représentant le clair et à des chaînes de n bits représentant la clé, je peux faire correspondre, je fais correspondre des blocs de cryptogrammes de m bits. Alors bien évidemment, ici je pars du principe que je considère l'ensemble générique de toutes les clés. Donc, quand on veut chiffrer, on va choisir une clé secrète particulière. Ce qui fait qu'on va considérer une restriction à cet ensemble. Autrement dit, pour chaque clé fixée, cette fois-ci, j'ai bien une permutation qui va de l'ensemble des chaînes de n-bits à l'ensemble des chaînes de n-bits. Autrement dit, de l'ensemble de l'espace clair à l'espace cryptogramme. Et des clés, ben, il y en a 2 puissance n. Dans le cas de l'AES, par exemple, puisque le cas de tous les systèmes modernes, on a environ 2 puissance 128 clés. Alors, on a 2 puissance 128 clés. Donc, ce qui est quand même une quantité extrêmement importante. Bon, sachant que les systèmes actuels nous sont vendus pour pour accepter des clés de 128, 192 et 256. Juste pour info, il faut savoir qu'actuellement, la recherche exhaustive, c'est-à-dire essayer toutes les clés qui étaient possibles encore pour des systèmes, on va dire, à 40 ou 56 bits, n'est plus du tout possible. On a fait un petit calcul. Si Si vous prenez une machine qui permet de casser, par exemple, le DES en une seconde, une machine très hypothétique, hein, il faut savoir que pour une clé de 128 bits, on part en milliers d'années encore. Donc à raison de 256 clés par seconde, actuellement c'est plutôt 22 heures. Mais admettons même qu'on ait cette machine, la recherche exhaustive n'est plus du tout possible. Donc on est face à des systèmes, à moins de trouver une faiblesse mathématique ou de disposer d'une trappe, ces systèmes sont virtuellement inviolables. Alors ce qui est intéressant, et ce qui fait l'intérêt de ces systèmes, c'est que je peux réutiliser la clé non seulement pour tous les blocs d'un même message, mais aussi pour tous les messages. D'ailleurs, dans toutes les cryptanalyses qui ont été publiées, que ce soit la cryptanalyse différentielle ou linéaire, c'est sous-entendu. Quand les gens disent, pour casser, il me faut par exemple 2 puissance 47 couples clair crypto, à moins d'avoir un message qui fait cette taille, ça veut bien dire que cette clé est réutilisée pour un très très grand nombre de messages. Donc implicitement, et c'est vrai que la théorie le permet, on peut réutiliser ces clés pour un très grand nombre de messages. Et ça, c'est la supériorité par rapport au système partout. Alors, quand ces systèmes par bloc sont sortis, donc le premier, rappelons-nous, c'est au milieu des années 70, très vite sont apparus un certain nombre de cryptanalyses. Je n'ai retenu, bien évidemment, que la plus efficace. Il y a celle de 92, la cryptanalyse différentielle dite Al-Ghiam et Shamir. Mais la plus efficace à l'heure actuelle, c'est la cryptanalyse dite linéaire. C'est une attaque qui suppose de connaître le clair. Donc au niveau opérationnel, c'est un peu embêtant. Surtout quand on vous demande de connaître des milliards et des milliards et des milliards de bits clairs, connaissant le chiffré pour pouvoir retrouver la clé, il est facile de comprendre que c'est pas opérationnel. Parce que si vous êtes capable de connaître le clair sur des milliards et des milliards de bits, souvent on ne se pose pas la question de retrouver la clé. Bon. Mais c'est quand même assez intéressant. En fait, Matsui s'est dit, tout simplement, si j'arrive à retrouver une relation probabiliste, c'est vrai avec une certaine probabilité P, entre d'une part certains bits du clair, alors P est utilisé pour son acronyme anglo-saxon plain text, avec certains bits du cryptogramme, ciphertext, et si ces deux quantités peuvent être liées, autrement dit, si l'entrée et la sortie du système peut, de façon probabiliste, être liée avec certains bits de la clé K, j'ai à ce moment-là une information qui est vraie dans plus d'un cas sur deux ou moins d'un cas sur deux. Autrement dit, hein, imaginez par exemple si vous jouiez au dé et que vous savez que mettons pile ou face, vous savez que le face sort plus souvent que le pile, je pense que vous allez quand même miser sur le face. Bon. Donc ça c'est une information, on sait que vous allez pouvoir jouer un jeu d'argent. Si vous savez que c'est P égale 1,5, à la limite vous avez autant de chances de perdre que de gagner, donc à ce moment-là on ne joue pas. Là, en gros, trouver une équation probabiliste de ce type-là, c'est pouvoir tricher. C'est avoir une information qui va me permettre de retrouver une relation qui va me permettre de trouver une information sur la quelqu'un. Alors qu'est-ce que l'on fait? Tout simplement, la cryptanalyse consiste à soumettre un grand nombre de couples clair crypto. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître et le clair et le chiffré, puisque justement, tous deux interviennent dans le membre de gauche de cette équation. Et comme je sais que le plus souvent c'est égal à une certaine clé, tout simplement par un décodage de maximum de ressemblance, je retrouve tout simplement une information sur la clé, en vertu d'un biais théorique qui a été constaté sur le système de chiffrement. Alors bien évidemment, la probabilité de succès est relativement élevée dès que le nombre n de couples clair crypto dont je dispose est suffisamment grand, en tout cas plus grand que le biais observé. Alors, c'est simple, si vous savez par exemple qu'une pièce et plombé du côté face, avec une probabilité de 2 sur 3, dès que vous aurez fait un peu plus au bout de 2 tiers d'un grand nombre d'essais, vous serez capable de déterminer de quel côté la pièce est plombée. Autrement dit, dès que vous avez suffisamment de tirage, vous êtes en mesure de déterminer le biais et surtout de l'utiliser. Là, c'est exactement la même chose. Il faut suffisamment de matériaux clair crypto pour justement être capable d'exploiter ce biais. Alors, l'exemple du DES, qui est la meilleure attaque connue, faut quand même voir que pour une probabilité qui fait 1,5 moins 1,19 à la puissance moins 21, hein, bon, je vous laisserai calculer, ça fait quand même, on est très très proche de 1,5, il faut quand même connaître le clair de 2 puissance 43 couples, ce qui veut dire que, en gros, il faut 2 puissance 49 bits de clair connu. Donc ça fait quelques dizaines de milliards. Alors cette attaque, on pourrait dire, oui, cette attaque ne sert à rien. C'est-à-dire que la cryptanalyse linéaire, si elle s'est révélée être inefficace contre le DES, à la même époque, certains systèmes, en particulier le système FEAL japonais, s'est complètement effondré. Donc c'est une technique qui, bien qu'inefficace contre le DES, est loin d'être inintéressante. Bon, alors bien évidemment, le gros inconvénient, pour l'instant, c'est la nécessité de connaître le clair en très grosse quantité. Alors justement, ces dépendances vis-à-vis du clair étaient un peu embêtantes, parce que bon, d'un côté opérationnel, ça ne permet pas de casser réellement. Donc ce qu'on a imaginé, c'est d'essayer de prendre un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire prendre les codes à répétition d'un côté, et la cryptanalyse linéaire de Mathieu, et d'essayer de conjuguer les deux. Et ça a donné la technique donc PDRC, autrement dit, faire dépendre la cryptanalyse d'un sous-ensemble de clair et d'utiliser des codes à répétition. Alors, en gros, on reprend une cryptanalyse de Matsui, une équation probabiliste de Matsui, et on essaye de s'affranchir du clair. Autrement dit, dans le chiffrement par bloc, je transmets un bloc de clair que je cherche à brouter avec la clé. Là, on a renversé les choses. On s'est dit, je prends une clé, je la brute avec du clair. Autrement dit, cette fois-ci, le clair est perçu comme un facteur de bruit. Autrement dit, ce que je transmets, c'est une information bruitée sur la clé. On peut très bien renverser le mécanisme. Seulement, comme cette clé est réutilisée de bloc en bloc, le clair, certes, lui change. Mais en gros, vous transmettez toujours la même information, puisque la clé est réutilisée de bloc en bloc, vous transmettez la même information bruitée. Autrement dit, transmettre une même information un grand nombre de fois, mais de manière bruitée, c'est quoi? C'est un code à répétition. Donc on s'est dit, si on arrive à trouver une relation de ce type-là, qui ne fait intervenir que le clé, que le chiffré, que le cryptogramme et la clé, bingo, on a notre relation. Donc ça, c'est la technique, on renverse le rôle relatif et respectif de la clé et du clé, et on considère tout simplement qu'on a un code à répétition par transmission d'une information sur la clé de bloc en bloc. Alors le problème, c'est de trouver quand même ce genre d'équation, c'est quand même pas évident. Alors le problème, d'abord, je ne peux pas considérer tout le clair. Parce que d'un point de vue mathématique, cette relation, si vous la considérez sur l'ensemble de tous les cryptogrammes, c'est P égale 1 demi. Ça, c'est la théorie. Vous avez une équation linéaire. Alors l'équation linéaire sur un espace ambiant complet, c'est P égale 1 demi. Donc déjà, si P égale 1 demi, on ne peut pas décider. Donc c'est pour ça qu'il faut considérer un sous-ensemble de clair, et on a pu construire de manière opérationnelle des exemples non triviaux, où effectivement, globalement, c'était une probabilité P égale 1,5 sur tout l'espace ambiant, mais sur certaines permutations et sur certains sous-ensembles de clairs et de chiffres correspondants, on avait cette fois-ci P différent de 1,5. Autrement dit, on avait bien ce biais. Donc ça confortait l'idée qu'on pouvait chercher l'information concernée. Alors bon, il y a des problèmes de variabilité du paramètre, des paramètres de bruit. En fait, si on était vraiment rigoureux, on aurait un paramètre, ce qu'on appelle un bruit non stationnaire, parce qu'en fin de compte, les blocs de clair qui bruitent la clé ne sont pas forcément les mêmes d'un bloc à un autre. Donc, d'un point de vue, pour être vraiment rigoureux, ça peut poser des problèmes. Donc, on s'est dit tout simplement, on va considérer effectivement un sous-ensemble de clair, à partir duquel aura été produit avec une même clé secrète, les cryptogrammes qui vont servir de base de notre étude. Alors l'avantage, c'est que ça permet, en se restreignant à un sous-ensemble, de considérer, au moins de façon espérée, des valeurs beaucoup plus importantes de données. Alors les clairs qu'on a étudiés correspondent à du langage de type anglais, mais c'est transposable à d'autres langues, codé en majuscule et en caractère ASCII. Donc d'un point de vue opérationnel, ça correspond quand même à beaucoup de choses envoyées sur les réseaux ou dans les communications. Par exemple, le Telex chiffrant rentre tout à fait dans ce modèle. Alors on applique des masques, on génère aléatoirement des clairs et on applique ce masque, ce qui oblige un bit à être à zéro, ici ou ici. La position dépend du type de codage que l'on considère. Voilà. Autrement dit, la seule supposition que je fais, c'est que celui que j'attaque a envoyé du langage clair, bon, de type anglais par exemple, codé en ASCII. Vous voyez, c'est un présupposé qui n'est pas trop handicapant. On peut éventuellement, par des analyses de trafic, savoir ce qui a été réellement envoyé. Alors, l'attaque en elle-même est très simple. Vous allez voir que c'est à la limite, c'est juste compter. Bah, tout simplement, je considère un code à répétition de grand N, où je prendrai N et impair, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Je considère donc ce nombre de blocs de cryptogrammes. Là, je ne vais utiliser que les textes chiffrés. Ah, vous voyez, je me suis affranchi à une supposition extrêmement générale et facile à avoir. Je me suis affranchi de toute autre considération sur le clair. Je ne travaille qu'avec des cryptogrammes. Hein, si vous mettez une antenne dans l'air ou de couper sur un réseau, et ça c'est une chose qu'on intercepte facilement. Et bien sûr, j'ai trouvé, et j'y reviendrai tout à l'heure, je dispose d'une équation probabiliste qui me permet de lier effectivement sur un tel sous-ensemble le cryptogramme à la clé. Donc en sortie, je vais produire tout simplement un bit d'information, un ou plusieurs, 1 par l'équation probabiliste, c'est-à-dire une information vraie à 100%, du moins on l'espère, sur la clé. Et quand j'aurai suffisamment de bits d'information, il suffit d'avoir n bits d'information sur une clé de n bits, je pourrai retrouver facilement la clé. Donc comment on fait? L'algorithme en pseudocode est très simple, j'initialise un compteur à zéro. Pour chaque bloc chiffré, je calcule le membre de gauche de mon équation probabiliste, autrement dit, c'est simplement des « et » et des « ou » en termes informatiques. Vous voyez, ça ne consomme pratiquement rien. Si le résultat de mon produit scalaire vaut 1, j'incrémente mon compteur. Terminé. Donc en fin de compte, c'est juste n comptages. Bon, n évaluations de produit scalaire, mais ça coûte vraiment rien. Et à la fin, je décide. Bah, tout simplement, si c'est supérieur au seuil, je décide que le bit d'information que je cherche, c'est 1. Sinon, je dis c'est 0. Vous voyez qu'en termes de complexité, on ne peut pas faire plus simple en termes. Je n'ai même pas à soumettre au chiffrement un certain nombre de clés, alors je gagne également sur cette phase. Je n'ai juste que des comptages à faire. Alors évidemment, on va voir quand même que cette complexité qui a l'air linéaire, effectivement, elle dépend du nombre de clés, de textes chiffrés. Le problème, c'est que la taille de texte chiffré dont on a besoin, elle est loin d'être linéaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut être quand même prudent. Mais par rapport à toutes les attaques qui se sont faites jusqu'à présent, c'est quand même un gain non négligeable, et plus que non négligeable. Alors on s'est dit aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est une attaque en deux temps. Autrement dit, on pourrait utiliser ce qu'on appelle des codes concaténés. Autrement dit, je considère deux codes à répétition. C'est-à-dire que tout simplement, ici, j'ai mon système de chiffrement, mon clair et mon crypto, et je fais une première attaque par code à répétition. Vous savez que le résultat donnera une information avec une certaine probabilité d'erreur résiduelle. Et bien je considère tout simplement, à ce moment-là, je resoumets ça à une deuxième phase de cryptanalyse par code à répétition, considérant cette fois-ci un code à répétition différent, dont le paramètre de bruit sera justement la probabilité d'erreur résiduelle obtenue sur le premier décodage. Alors on s'est dit, intuitivement, peut-être que ça va être intéressant, parce qu'on sait que les codes concaténés en général sont des codes plus puissants que leurs homologues simples. Or, sauf un cas, et on a pu le démontrer mathématiquement, sauf dans le cas des codes à répétition. Donc cette idée n'était pas bonne, elle n'était pas qu'elle était mauvaise, mais elle était moins efficace. Il vaut mieux prendre un seul code à répétition plutôt que d'en prendre deux. La bonne nouvelle, c'est que la complexité de l'attaque reste basse, parce que sinon, il aurait fallu la répéter deux fois. Ouais. Donc, l'idée de considérer des codes concaténés formés de deux codes à répétition n'améliore pas, contrairement aux autres familles de codes correcteurs d'erreur. Alors avant de passer justement sur les résultats concernant l'AES, on s'est posé un certain quatre problèmes qui pour l'instant sont des problèmes ouverts et qui quand même ont leur importance, vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, est-ce qu'il est possible de concevoir un système cryptographique S qui résisterait à cette attaque? Alors le problème c'est que dans l'absolu, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les mathématiques montrent qu'au niveau des fonctions booléennes modélisant les sorties d'un système par bloc, il est, comme d'ailleurs dans n'importe quel système de chiffrement, il existe toujours des corrélations exploitables. Autrement dit, il existe toujours des biais. Vous pouvez toujours essayer de les gommer à la base, vous ne faites que les concentrer ailleurs. Et ça, c'est dû justement au théorème de Parseval. Donc ces corrélations existent toujours. Le problème, c'est que la difficulté, c'est de les trouver. Rappelez-vous, on est sur des ensembles monstrueusement grands. Donc le problème, c'est de les trouver. Et ça, c'est en particulier le logiciel Vauban qui a été mis au point, qui essaye justement, qui est capable, en tout cas, de travailler sur des gros ensembles. De très très gros ensembles. Après, il y a deux problèmes. Les problèmes de trappe faible, autrement dit, je dispose d'un sous-ensemble de cryptogrammes produits à partir d'un sous-ensemble de texte clair. Est-ce que je peux concevoir un système S qui, pour une équation probabiliste E, que je connais, est-ce qu'il est possible de fabriquer un tel système autorisant l'attaque? Là, vous comprenez le système, le principe, c'est que j'ai une équation, je connais le secret, le gars utilise mon système sans le connaître, moi je peux attaquer ce système. Ça, pour l'instant, on travaille dessus, on a, disons, de bons espoirs d'y arriver. On voit bien les enjeux qu'il y a derrière. Puis le problème de trappe forte, là, j'augmente un peu les contraintes, autrement dit, j'ai une équation probabiliste, cette fois-ci, je veux que quel que soit l'ensemble, le sous-ensemble de cryptogrammes, ça fonctionne. Autrement dit, je puisse attaquer le système. Donc vous voyez, par rapport au problème de trappe faible, là on monte le niveau de difficulté. Et puis surtout, le problème c'est un problème ouvert, celui-là est de moins en moins ouvert avec le système Vauban, c'est justement, est-ce que je peux trouver une équation probabiliste et des sous-ensembles qui vont bien, permettant de lier uniquement le cryptogramme avec la clé. Alors pour l'AES, les résultats avaient été trouvés à la fin de l'année dernière, on a trouvé au bout de 4 mois de calcul, sur deux PC, hein, deux PC retaillés, mais qui ne nécessitent pas énormément de quantité de mémoire, juste beaucoup de temps. On a donc trouvé avec le logiciel Vauban, qui est un logiciel donc pour l'instant n'est pas publié, on a trouvé de façon déterministe, justement, deux équations. En fait, on en a trouvé un peu plus, on en a trouvé environ 300 à 400, mais pour l'instant, on en a étalonné que deux. Ce que l'on sait, on peut exhiber une équation, on est sûr de son biais, on est sûr qu'il y a un biais, et on connaît son signe. Autrement dit, est-ce que c'est 1,5 plus un epsilon ou 1,5 moins un epsilon? Ça, on sait. Ce que l'on ne sait pas encore déterminer, parce que tout simplement, on n'a pas suffisamment avancé dans le domaine, le biais lui-même n'est pas connu. C'est-à-dire, est-ce que c'est 1,5 plus 0,1, 1,5 plus 0,0,1, on sait plutôt que ce sera plutôt 1,5 plus 10-5 ou 10-6, mais bref, on n'est pas capable à l'heure actuelle de donner la valeur exacte du biais. On sait qu'il y a un biais, on connaît son signe. Parce que déjà, une information importante. Alors, ce qu'on a fait, bah, tout simplement, en faisant un certain nombre d'étalonnages, on a pu donc faire 200 cryptanalyses. C'est-à-dire qu'on a réellement fait, et le code source complet est publié, on a réellement fait 200 cryptanalyses sur l'AES, hein, ce qui a nécessité 3 mètres de calcul sur un nombre de PM, parce qu'il faut quand même. Le plus dur d'ailleurs, c'était de produire les blocs chiffrés. Parce que là, on doit se manger, je veux dire, un certain nombre de chiffrements avec l'AES, et l'AES, ça peut être bien programmé, il faut quand même les faire. Hein. Donc il faut savoir que plus de 80% du temps de calcul passe dans la génération de ce que autrement, dans un autre cas, on intercepterait simplement. Donc le coût est essentiellement, dans l'expérience qu'on a menée, générer ce qu'on intercepterait autrement. Et on n'utilise que 2 puissance 31 blocs chiffrés, autrement dit, ce qui est stocké sur un disque dur moyen. Hein, 2 puissance 31, ça fait en gros 4 gigablocs. On suppose tout simplement que le clair a été produit à partir d'ASCII. Alors bien sûr, on a défini un protocole expérimental rigoureux, parce qu'il faut savoir qu'en janvier, quand on a publié ça, alors qu'on avait publié le code source, et il y a eu un certain nombre de critiques qui s'expliquent plus ou moins, ce qui s'est passé, c'est que personne n'a voulu reproduire l'expérience, tout le monde l'a mise en cause mais sans la refaire, ce qui était un peu gênant, donc on était obligé de refaire l'expérience, ces 200 cryptanalyses, et cette fois-ci de publier le code source, ce qui avait été fait dès le départ, de montrer que la qualité des aléas, parce que ça aussi, ça a été l'aléa qu'on avait utilisé était suspecté mauvais, alors que c'était tout à fait le contraire. Bref, on a défini un protocole expérimental extrêmement rigoureux, tout a été publié, code source et également toutes les valeurs intermédiaires des cryptanalyses pour permettre justement la reproductibilité des résultats sans avoir à refaire les 3 mois de calcul. Et les résultats sont confirmés. On peut effectivement retrouver, avec une probabilité de succès non négligeable, on va le voir sur la planche suivante, on peut retrouver 3 bits d'information on va dire 2,5, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, on peut retrouver 2 bits d'information sur la clé de la base. Et de manière opérationnelle. Je répète, ce sont 200 cryptanalyses qui ont été faites complètement et totalement. Alors il faut savoir qu'en particulier lors des critiques de février 2002, deux Américains ont prétendu avoir refait en 27 heures ce que nous on a fait en 3 mois. Le problème c'est que les informations qu'ils donnent sont inexploitables parce que non reproductibles. Donc on suspecte fortement un certain nombre de choses. En tout cas, il n'est pas possible qu'ils aient obtenu ces résultats. C'est en particulier ce qui a incité à refaire l'expérience et cette fois-ci tout générer pour que les gens puissent vérifier sans avoir à refaire les 3 mois de calcul. Alors, juste pour le fun, voilà les deux équations. Bon, autrement dit, vous voyez, j'ai ici un bit. Bon, elles sont disponibles sur un lien que je vous donnerai, hein, ne leur copiez pas. Ici, vous avez le bit de cryptogramme. Alors, il y a des raisons particulières qui font considérer les bits de cryptogramme un par un plutôt que plusieurs, comme dans le cas de la cryptanalyse linéaire. Et ici, tous les bits de clés que l'on considère. Et pareil pour la deuxième équation. Alors maintenant qu'on est sûr que cette technique marche, on va pouvoir valider les quelques 300 autres équations que l'on a. Bon, le problème, c'est qu'il faut beaucoup de puissance de calcul, et je suis à la recherche de gros ordinateurs. Bien, voici schématisé dans un tableau, en sachant que vous pourrez refaire la même chose à la main, les résultats seront publiés très prochainement sur la page web. L'expérience numéro 1, premier PC, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement laissé un PC tourner 3 mois. On lui a donné une grève, et on lui a laissé générer ses 100 cryptanalyses. Autrement dit, l'équation 1, je retrouve le premier bit avec 60% de succès. Alors bien évidemment, si j'augmentais la taille de mon code à répétition, je passais de 2,31 à peut-être 2,35 ou 2,36, c'est pas grave, on travaille que sur du chiffre. Et bien, je pense, et j'en suis pratiquement sûr, on augmenterait la probabilité de succès. Sur l'équation numéro 2, 63%. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ces équations sont très fortement différentes. Or, si l'AES était un bon modèle, on pourrait se dire que les équations sont indépendantes. Donc, additionner les équations devrait donner a priori 1,5. Or, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre ces deux équations, ce qui conforte d'ailleurs l'approche. Donc, ces équations ne sont pas indépendantes. Bon, vous avez les mêmes types de résultats sur, pour un deuxième PC, et ça a été, on a essayé de dérouler également 3. Donc, il est clair, contrairement à ce qu'a dit une des critiques, on n'a pas eu de chance, c'est pas une question de chance, on l'a refait deux fois, du moins réussir ce genre de résultat, c'est quand même plus dur que de gagner au loto. Ce qui est un simple calcul le montre, donc c'est pas une question de chance. Alors, à titre de conclusion, d'abord, il faut savoir qu'on a d'autres équations sur l'AES ont été obtenues, donc c'est en cours de test, hein, mais ce qu'on voulait, c'était quand même que ces deux équations soient validées. Alors, ce qu'on aimerait, bien sûr, et on y travaille, c'est déterminer plus précisément le biais, parce que je vous rappelle qu'on n'a qu'une, on sait que la seule chose que l'on sache, c'est qu'il y a un biais et qu'elle est sensible. Et surtout, il faut quand même savoir une chose, c'est que lors du concours AES, donc ce concours, l'AES, j'ai oublié de le dire, a été sélectionné à l'issue d'un concours lancé par le gouvernement américain. Encore une fois. Et il imposait obligatoirement que ce soit des systèmes par bloc. Il ne veut pas du tout entendre parler de systèmes par bloc. Donc, 18 candidats avaient été soumis. Bon, il y en a 3 qui ont tout de suite viré, c'est les 3 Russes. Enfin, les Américains ont peut-être peur des mathématiciens russes. Bon, donc les 3 Russes ont été virés et on a eu 15 candidats qui ont été sélectionnés par la première phase. À l'issue de la première phase, 5 ont été retenus. 3 Américains, un candidat anglais, israélien, norvégien et un candidat belge. Sur les, bien sûr, un seul a été choisi, c'est l'AES, qui est le candidat belge. Donc, connu autrement sous le nom de Ringley. On a appliqué les techniques Vauban sur ces systèmes. Actuellement, il n'y a que 3 systèmes qui, pour l'instant, résistent. C'est le système japonais, E2, le système allemand, Magenta, et le système Mars. Mais c'est vrai que les gens de Mars sont les mêmes qui ont fabriqué le DS. Certains louvoient entre IBM et la NSA, et c'est vrai qu'ils ont peut-être des connaissances beaucoup plus étendues que les autres personnes ayant proposé les candidats. En tout cas, pour l'instant, ces 3-là résistent. Autrement dit, on n'est pas capable pour l'instant, le logiciel Vauban ne retrouve pas d'équation sur ces systèmes. Ce qui veut dire qu'elle n'existe pas, mais le système est tellement bien fait que Vauban n'arrive pas à les trouver. Alors, en tout cas, on peut, au moins d'un point de vue théorique et à la lumière, et même d'un point de vue pratique à la lumière des expériences sur l'AES, considérer quand même qu'une certaine remise en cause du système par bloc est possible. Le simple fait de réutiliser la clé, on voit bien par cette modélisation par des codes à répétition, on voit bien tout simplement que c'est une information que l'on transmet plusieurs fois. Et comme on la transmet plusieurs fois, et ben on peut, d'une manière ou d'une autre, essayer de la retrouver. En tout cas, pour l'AES, c'est ce qu'on est parvenu à faire dans nettement plus d'un cas sur deux. Ce qu'on a essayé avec, pour l'instant, des prémices de succès, c'est de transposer ces techniques Vauban sur, justement, les systèmes par flow utilisant la rétroaction linéaire, c'est-à-dire les systèmes les plus fréquents. A priori, ça marche sans problème. Et pour le moment, les seuls qui résistent sont les systèmes par flux utilisant la rétroaction non linéaire. Autrement dit, l'évolution du système interne pour générer la suite aléatoire qui est combinée au texte clair se fait selon des processus non linéaires, contrairement au système utilisant la rétroaction linéaire. Bon, c'est implicite, on voit bien que quand il y a des relations internes entre les états de la machine qui sont de nature linéaire, c'est moins difficile, c'est entre guillemets plus prédictible que quand vous avez quelque chose qui se rapproche plus du chaos. Donc pour l'instant, Vauban ne marche pas sur les techniques, sur les systèmes non linéaires. Alors je vous disais que tout est disponible pour ceux de Satan, pour mon EPC inoccupé. Donc sur cette page web, vous trouverez au fur et à mesure bon, les tout derniers états que la page web est hébergée ailleurs, donc il faut y aller parce qu'on ne peut pas s'y connecter à distance. Donc très vite, ils vont être disponibles. En tout cas, tous les codes sources sont disponibles. Le générateur d'aléatoire tant critiqué est disponible. Après coup, les gens sont aperçus qu'il est excellent. Vous pouvez aussi, vous aurez deux bons générateurs aléatoires. Je précise d'ailleurs que le générateur aléatoire, on utilise deux. Un pour le clair, un pour la clé. Pour ne pas introduire de dépendance, je veux dire qu'on ne pourrait pas avoir. Donc il y a deux systèmes de génération aléatoire qui sont même pas très bons. Tous les résultats détaillés sont disponibles. Le modèle théorique de l'attaque, de cette attaque a été accepté, et en particulier, c'est, je sais que c'est quand même quelqu'un. James Massey, un compte en matière de chiffrement par bloc qui a reviewé ce papier. Donc le modèle théorique, on peut considérer qu'il est maintenant admis et accepté. Les résultats expérimentaux pour l'AES et d'autres systèmes sont en cours de soumission, comme on dit, la suite à venir. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop technique. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Moi je dirais que 90% du temps c'est la génération des... Parce qu'il faut savoir qu'on génère aléatoirement. Donc ça veut dire que c'est 1, la génération aléatoire des clés. Alors les clés c'est pas grave parce qu'on les cherche un peu souvent. Mais c'est la génération aléatoire des clairs et leur chiffrement. Ça c'est... Bon, ça nécessite beaucoup de temps de calcul. Donc je dirais, mais c'est vrai, je ne suis pas polarisé là-dessus, je dirais pas loin de 90%. Donc une clé d'analyse dure 27 heures. À peu près. À la louche selon le temps de chargement des machines. Donc 90% de 27 heures, ça donne beaucoup. Mais la catalyse en elle-même, effectivement, est... on compte. Hein. Comme dirait un analyste, un boulot de fantassin. Oui.
Pour l'instant, demi-demi-demi.
Voilà. Alors le demi, c'était parce que ça met en lumière une dépendance. Donc disons demi-demi. Donc l'AES n'est pas cassé.
Le demi que qu'on aura des studios, de toute façon, on plus de...
En tout cas, on a un certain nombre de candidats. Maintenant, il faut, de toute façon, dans ce domaine-là, dans la mesure où ce sont des ensembles tellement gros, il n'y a que l'expérience. Donc il faudra refaire l'expérience un grand nombre de fois. Alors peut-être, j'espère, en tout cas, que ça donnera l'idée à des chercheurs de se mettre dessus pour... Alors on a réussi à expliquer pourquoi ces biais existent. Ça, c'est important. On a sorti... Enfin, ce qui a été sorti, c'est une explication qui est de nature combinatoire. Donc ça, on sait pourquoi. Alors, en mettant bout à bout par cela les aspects combinatoires, on peut l'expliquer. Le problème, c'est qu'il faut quand même, il manque quand même une inconnue pour avoir une idée précise de la quantité de chiffres qu'il faut. Ce serait bien d'avoir une valeur relativement exacte, du moins avec un bon ordre de grandeur du biais. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'une fois que j'aurai le biais relativement précis, je pourrai déterminer une longueur suffisante de mon code à la répétition pour avoir une probabilité de succès plus importante. Quand j'aurai des probabilités de succès plus importantes voisinant les 90%, je pourrais varier plusieurs équations. Et après, il y a un problème de multiplication des probabilités de succès. Et là, je pense qu'effectivement, on pourra retrouver une part significative, en tout cas non négligeable de la vie. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire avant de dire que la vie s'est cassée. On a de bons espoirs d'y arriver avec beaucoup de temps et d'ordinateurs. Mais en tout cas, on sait maintenant comment faire. Oui. Bah, disons, là, actuellement, j'ai 300 équations à tester, donc 300 PC pendant 3 mois. Ah, bien sûr, si vous avez plus, je suis preneur. Non, c'est ça le problème, c'est que dans la mesure où on voulait privilégier une approche opérationnelle, c'est-à-dire vraiment dire on l'a fait un certain nombre de fois, voici la probabilité de succès, et de le faire, de le refaire, il n'y a que comme ça qu'on peut convaincre les gens, et surtout de mettre à disposition les codes sources. Alors c'est tout à fait standard, ils réclament juste d'avoir un compilateur tout à fait générique. C'est du C écrit proche de la machine, donc je veux dire, n'importe qui peut le prendre et le réutiliser. Donc vous avez des questions à vous poser.
Le fait que vous ayez trouvé un biais dans la VS, est-ce que ça veut dire qu'il est supposé une trappe?
Alors déjà, il faut savoir une chose que. Il existera toujours des biais, et ça les concepteurs de management de l'AES l'ont reconnu. De toute façon, quand vous avez un système de chiffrement, il y aura toujours des biais. Ça, c'est le théorème de Parseval. Ça, de toute façon, on ne peut pas le faire. Ce qu'on peut s'arranger, c'est de répartir en gros l'énergie de chaque fonction le mieux possible pour être inexploitable pour l'attaquant. A l'inverse, on peut s'arranger pour le répartir d'une manière optimale dans l'intérêt de l'attaquant. Le problème, c'est que comme ce sont des ensembles tellement gros que, à moins de connaître la trappe, on ne peut pas répondre à la question. Alors maintenant, à la lumière d'un certain nombre d'expériences et d'un certain nombre d'autres éléments, et connaissant surtout les Américains, je serais amené à penser que oui, il y a une trappe. Mais cette fois-ci, c'est un sentiment personnel, étayé certes par un certain nombre d'éléments de réflexion et un certain nombre d'éléments techniques, mais il est bien évident que tant qu'on n'exhibera pas la trappe, on ne pourra pas le prouver à 100%. C'est clair. Maintenant, ça dépend de ce qu'on appelle trappe, parce que comme on peut très bien ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, peut-être que c'est une trappe qui permet de faire, par exemple, au lieu de faire 2 puissance 128 dans le système systématique, peut-être que ça permet de réduire, mettons, à 2 puissance 60 ou 70, ce qui n'est accessible qu'à des pays richement dotés en matière de compétences informatiques. Donc, à la limite, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Ce qui est déjà intéressant. Mais ma conviction, oui, c'est qu'il y en a. Oui ?
Avez-vous appliqué ces techniques à
Non. Le problème, c'est qu'il y a tellement de candidats qui seraient intéressants de tester, mais là, c'est un problème de temps, on n'est pas nombreux et... Oui, j'aimerais bien. Ça fait partie des candidats. Le DES, j'aimerais bien. Bon, l'AES, ce qui a motivé le choix de l'AES, je vais le reconnaître, c'est un certain effet, c'est l'algorithme à la mode. Donc c'est vrai que pour étalonner les techniques, et inciter les gens à l'utiliser, à étalonner les techniques en elles-mêmes, autant prendre quelque chose qui est à la mode. Mais c'est vrai que Skipjack ou même le DES, il y a toujours un problème ouvert dessus, ce sont des candidats extrêmement intéressants. Oui ?
Si je suis votre raisonnement sur...
Une conviction, hein.
Comment à ce moment-là vous expliquez que dans le concours, ce soit un algorithme belge qui est sélectionné ou un algorithme américain ?
Alors pour avoir été à la conférence à ES3, d'abord parce qu'il faut savoir que à l'origine, les Américains avaient envie de privilégier le système Mars. Et les universitaires n'avaient pas du tout envie. Donc il y a eu des votes. Alors de façon feinte ou réelle, je ne sais pas, la communauté européenne, en particulier le NIST, a semblé ou a affecté d'agir un peu sous la pression. Bon, mon sentiment, c'est que de toute façon, les 15 systèmes, ils les maîtrisent. Donc, parce que c'est la technologie. Pour l'instant, il y a une grosse incertitude sur la technologie par bloc. Comme je disais en préambule de la présentation, c'est que sur un système de chiffrement par flot, il y a un état de l'art tel que, je veux dire, on sait si on a un niveau de sécurité ou pas. C'est peut-être la raison pour laquelle la plupart des systèmes de chiffrement flot sont propriétaires et non connus. Il y a à la fois un état de l'art, les systèmes par bloc, pour l'instant, c'est une grosse pagaille combinatoire, et c'est vrai qu'il y a des tas d'idées, on est en train d'en développer certaines, qui permettent de cacher des tas de choses dedans. Donc ce que l'on sait, par exemple, il y a une chose importante, j'ai parlé de la vitesse différentielle tout à l'heure. En 92, quand elle a été révélée par les Iraniens via les Shamir, on s'est fait l'effet d'une bombe. Alors les gens se sont dit, beaucoup de systèmes sont tombés, les systèmes japonais et d'autres. Et on s'est dit, c'est quand même bizarre que le DES résiste. Il n'est pas naturel qu'un système résiste aussi bien vis-à-vis d'une cryptanalyse qui était quand même puissante, il faut le reconnaître. Et en fait, la NSA a reconnu que cette cryptanalyse, il la connaissait 20 ans avant. Pour vous donner un peu le différentiel en termes de connaissances entre la communauté ouverte, qui est pourtant nombreuse, et je veux dire certains services comme la NSA. Donc 20 ans, bon, bah.
Le différentiel,
alors là, il faudrait le demander aux gens concernés. je doute qu'ils répondent. Oh oui. Bah, de toute façon, faut voir l'énergie qu'ils consacrent. Hein. Oui, alors là, le différentiel, à mon avis, c'est même aggravé. Enfin, aggravé, c'est une grosse. Mais bon, là, pour beaucoup de choses, ce sont des suppositions, certes étayées par certains éléments de réflexion, mais encore une fois, tant qu'on n'exhibera pas la trappe, ça reste une